Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 27 avril 2023. Et si vous n'avez jamais fait de finance, jamais mis d'argent en bourse et que vous regardez la liste des performances indicielles de la veille, vous pourriez éventuellement vous interroger sur l'état mental des marchés financiers. Et vous auriez raison, parce qu'hier, les intervenants étaient partagés entre l'euphorie générée par les chiffres de Microsoft et le fait qu'ils aient prononcé 50 fois les mots intelligence artificielle dans leur conférence de presse et l'angoisse de voir arriver une récession après d'autres publications trimestrielles, ainsi que les relents nauséabonds d'une crise bancaire sur le retour. En résumé, hier, la technologie était en folie parce que la société fondée par Bill Gates avait publié de très bons chiffres la veille au soir, on en avait parlé hier. Mais au-delà des bons chiffres, on a également pu voir et entendre que cette nouvelle passion pour l'intelligence artificielle affichée par le géant du software a aussi donné la patate aux investisseurs. Une chose est absolument certaine, c'est que les investisseurs aiment la thématique et que si vous publiez des chiffres trimestriels qui sont excellents et que vous saupoudrez la thématique de l'intelligence artificielle par-dessus, le carton est quasiment garanti. Cela a même été confirmé par les chiffres de Meta qui ont été publiés hier soir after close. Zuckerberg a battu clairement les attentes du marché. La société semble avoir réussi à renverser la vapeur après la catastrophe de 2022. Les licenciements ont permis de stabiliser la société selon le CEO et les chiffres étaient supérieurs aux attentes du marché. Mais en plus, je viens de lire le communiqué de presse. Les mots « intelligence artificielle » sont pratiquement intégrés dans chaque phrase que Mark Zuckerberg a prononcée hier soir. Du coup, je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, mais en tous les cas, ça fait hyper plaisir au marché puisque l'ancien Facebook était en hausse de 11% dans la nuit. En résumé, la tech est devenue « the place to be ». Mais heureusement, mais seulement, s'il y a de l'intelligence artificielle dedans. Hein. Autant dire qu'Amazon a intérêt à bien s'exprimer ce soir s'il veut profiter de la gratitude des investisseurs. Pendant que le secteur de la tech s'injectait de l'intelligence artificielle à haute dose et s'en félicitait parmi, le reste des marchés n'était pas aussi à l'aise. Ailleurs, dans le monde réel, où il y a des vrais gens qui travaillent, des gens que l'on ne peut pas remplacer par des robots pilotés par des ordinateurs qui sont eux-mêmes pilotés par Skynet et ses copains, enfin, qu'on ne peut pas remplacer pour l'instant, eh bien dans ce monde-là, ça rigole un peu moins en termes de performance parce que l'on sent venir le coup de frein de l'économie et ça commence à faire angoisser les CEO et autres investisseurs. Oui, le thème de la récession était très présent dans les esprits durant la séance d'hier. Les mauvais chiffres et les déclarations timorées du PS lors de leur publication n'ont pas aidé à rassurer les marchés et on commence sérieusement à se poser la question de la suite des événements. Pour le moment, nous sommes encore en train de nous demander à quelle sauce nous serons mangés par la Fed la semaine prochaine, mais une fois que cette histoire sera derrière nous et que l'on saura enfin, si la Fed va pivoter, on ose à peine y croire, il y aura des fortes chances que l'on commence à prendre des paris sur le sujet de la récession. En tous les cas, hier soir, on a bien vu que le sujet commence à être un peu trop présent dans l'esprit de tout le monde, et on peut largement imaginer que les chiffres du PIB américain qui seront publiés tout à l'heure ne vont pas aider à calmer le jeu. Et puis, le dernier sujet à la mode de la séance d'hier, c'était la crise des banques. Enfin, pour le moment, on va plutôt dire la crise de la banque. L'affaire First Republic n'est pas terminée et visiblement, on a décidé de ne parler que de ça dans le secteur bancaire cette semaine. Le problème, c'est que même si le problème de la First Republic semble un problème spécifique et localisé, les investisseurs ne l'entendent pas de cette oreille et ont quand même tendance à virer toutes les actions bancaires de leur portefeuille. Et ils ont bien raison. Personnellement, j'ai juré que plus jamais je mettrais 10 balles dans une banque cotée en bourse. Je crois qu'on a assez joué, qu'on nous a assez baladé pour ne pas persister là-dedans. Alors certains diront qu'il y a des opportunités et que l'on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le secteur. Mais quand même, le secteur bancaire, c'est comme l'euro million. Tu mets de l'argent dedans et si t'as du bol, tu peux gagner de l'argent. Mais t'as quand même plus de chances de gagner à l'euro million. Donc hier, First Republic, qui avait plongé de 50% durant la séance de mardi, a décidé de communiquer. Il faut dire que durant la conférence de presse des résultats trimestriels, le call avait duré à peine 13 minutes et ils avaient refusé de répondre aux questions des analystes et des journalistes. Ça n'a sûrement pas aidé. Mais hier, ils se sont sortis les pouces et ils ont fait une déclaration claire et précise qui tient en peu de mots. Une déclaration qui ressemble d'ailleurs assez à celle qu'a fait le Crédit Suisse 3 jours avant de se faire condamner à mort par les autorités suisses. First Republic a annoncé qu'ils allaient virer 25% de leur staff, mais pas le CFO et ni le CEO, et qu'ensuite, ils allaient se concentrer sur leur métier de base pour se reconstruire, mais qu'ils étaient définitivement viables. En fait, ça ressemble pas à la déclaration du Crédit Suisse C'est la déclaration du Crédit Suisse. Je suis certain que le CEO de First Republic a passé un coup de fil à Lehman pour qu'il lui envoie le PDF de son dernier discours. Discours qui a d'ailleurs vraiment bien fonctionné auprès des investisseurs, puisque le titre a perdu 30% dans la foulée. L'action est donc en baisse de 96,5% depuis le 2 février. Je crois que s'ils avaient voulu faire passer un message, c'est raté. Notez qu'ils auraient pu faire pire, hein. Ils auraient pu annoncer qu'ils changeaient de nom et que dorénavant, ils se feraient appeler Crédit Suisse. En tous les cas, aux dernières nouvelles, la Fed, la SEC et le Congrès n'ont pas prévu de forcer l'UBS à racheter ce qui reste de First Republic. Du coup, l'ensemble du secteur bancaire était à nouveau sous pression, même si les commentaires se veulent généralement rassurants et laissent à penser que cette histoire ne fait que partie des secousses résiduelles après la grosse crise de mars. Il faut tout de même noter au passage que PacWest a sorti des chiffres moins merdiques et qu'il y a encore de l'espoir. En même temps, si j'étais américain et que j'avais de l'argent dans une banque régionale, je crois que dans le doute, je solderais quand même mon compte, même si ça n'est pas très gentil pour la banque. Et j'irai me mettre dans une bonne vieille grosse banque bien systémique que le gouvernement ne peut pas se permettre de voir partir en faillite. Comme disait l'autre, si tu dois paniquer, sois le premier à paniquer. En effet, personne n'a remercié le dernier gars qui est descendu du Titanic et qui n'a même pas aidé Jack sur sa planche. Ce matin, les marchés asiatiques prennent des notes sur ce qui se passe, mais ne font pas grand-chose. Le Japon recule de 0,2%, Hong Kong est inchangé et la Chine monte de 0,2%. On a connu des matins plus excitants. Pendant ce temps, le pétrole continue de se faire démonter la tête parce que la récession approche. Le baril a totalement effacé la hausse qui était la sienne depuis que l'on a appris que l'OPEP allait couper la production d'un 1 million de barils par jour. Visiblement, les chiffres des inventaires pétroliers qui sont en chute libre n'ont pas fait réagir les traders qui sont plus concentrés sur la récession qui arrive qu'autre chose. Et vu le prix du pétrole, je serai le pape, je couperai la production de 2 millions de barils par jour, juste pour voir. Techniquement, le brut est revenu combler son gap haussier et déclenché par l'annonce de l'OPEP du 4 avril. Reste à trouver le bon point d'entrée si on ne croit pas en une récession violente. L'or est à 2008 et le bitcoin est à 29 000. Et il faudra noter qu'hier, il a même tapé les 30 000. Il paraît que les gens achètent du bitcoin parce qu'ils n'ont plus confiance en les banques. Mais non, mais non, mais pourquoi tant de haine? Les banques qui font pourtant tout pour être sympas avec le client. Il y a même des banques qui veulent retourner à leur métier de base pour nous faire plaisir. C'est quand même pas sympa de la part des gens qui quittent les banques pour le bitcoin. D'ailleurs, une question me vient à l'esprit. Quand un banquier te dit qu'il veut retourner à son métier de base, ça veut dire quoi exactement? Bon, dans les nouvelles du jour, on parle du plafond de la dette, puisque les Républicains se sont mis d'accord pour proposer une rallonge de la dette en faisant des coupes dans les dépenses. Sauf que les démocrates, eux, seraient plutôt pour une rallonge, mais sans faire d'économie. Biden a déclaré qu'il voudrait bien parler avec les Républicains, mais qu'il était exclu de faire des concessions. Il est en train d'appliquer la méthode Macron. Je veux bien discuter avec la partie adverse, mais seulement si elle est d'accord avec moi et seulement si on n'aborde pas les sujets qui fâchent. C'est marrant, on dirait mon ex-femme aussi. Il y a aussi la commission de la concurrence britannique qui a décidé que Microsoft ne devrait pas acheter Activision parce que c'est pas bien pour la concurrence. Microsoft a déclaré qu'ils allaient faire appel, mais Activision a quand même perdu 10% au passage. Ils devraient demander l'avis de la commission de la concurrence en Suisse. Et visiblement, ils sont assez souples puisque tu peux fusionner les deux plus grosses banques du pays sans que les mecs fassent le moindre communiqué de presse. Bon, à leur décharge, ils étaient en vacances de ski, hein, du 1er mars au 31 mars, mais le 31 mars de l'an prochain. Et puis autrement, on ne parle que de Meta, qui n'est visiblement plus une boîte toute pourrie comme on le pensait depuis 12 mois. Pour ce qui est des chiffres économiques du jour, il y aura le climat des affaires en Europe et la confiance du consommateur. Aux USA, nous aurons les jobless claims, comme tous les jeudis, ainsi que les chiffres du PIB. Il y aura également les dépenses de consommation, plein de choses qui vont exciter la Fed pour la semaine prochaine. Pour ce qui est des chiffres du trimestre, nous aurons Sanofi, BASF, TF1, STM Micro, Total, Air Liquide, Schneider, Unilever et Pernod Ricard. En Suisse, il y aura MSKMI, Micron, et la Banque cantonale de Lucerne. Aux USA, il y aura aussi du monde. Avant l'ouverture, nous aurons Eli Lilly, Caterpillar, Mastercard, ABBV, Merck et Crocs. Et après la clôture, il y aura le prochain GAFAM sur la liste, Amazon. Puis Intel qui devrait annoncer une méga perte et Snap avec qui on rigole à chaque publication. On se demande bien ce qu'il nous réserve ce soir. Pour le reste, les futurs sont en hausse de 0,3% à cause de Meta et aujourd'hui, on devrait avoir une journée qui ressemble à peu près au printemps. Merci d'avoir été avec moi ce matin. On se retrouve dans 24 heures ici même pour boucler la semaine et entamer le long week-end du 1er mai. À demain.